Qui dit nouveau mois dit nouvelle acolyte, c'est Karine Villeneuve qui est à ma droite. Madame Villeneuve, bonjour.
Bonjour, Luc.
Karine qui est directrice, donc cadre de l'Association québécoise des personnes de petite taille. C'est Martin Dupuis qui est à la mise en onde et Lynn Gargano qui est à la recherche. Je sais que Lynn est grand-mère d'une membre de l'AQPPT. Est-ce que le membership de la petite fille est en règle? Parce que sinon, je vais vous arranger ça. Là. Moi, je crois que hein? L'équipe d'Axelib soit en règle. Là.
Bien sûr. Bien
OK.
Sûr.
Sinon, je l'oblige et puis on paye la cotisation avant qu'on parte.
D'accord.
Il faut que ça se règle, ça, tout ça. Donc, Karine qui va passer comme ça les 5 prochains vendredis avec moi pour jaser, entre autres, de son association. Et on va, mettre un accent sur les personnes de petite taille, réalité qui est souvent escamotée hein, lorsqu'on parle d'accessibilité. Le fauteuil roulant passe en premier, ratisse large, et ensuite, il y a comme les autres. Et loin derrière, souvent, il y a la personne de petite taille, donc on va faire un effort. Aujourd'hui, en plus de connaître un peu la réalité de la QPPT, on va s'intéresser aux inquiétudes de Revivre, qui a vu son budget coupé de façon draconienne. Un film sur les sourds, un documentaire de 44 minutes, et une propriétaire de garderie qui a de la difficulté à trouver des clients. Elle est atteinte de paralysie cérébrale et apparemment que ça lui cause des ennuis à d'autres titres que simplement la mobilité. Madame Villeneuve, commençons par le commencement. Vous êtes là, certains d'entre nous vous connaissons parce que, on vous a peut-être croisé ou peut-être qu'on vous a entendu sur les ondes ici. Bien que vous n'êtes pas la plus... Vous êtes un tempérament qui fait bouger les choses, mais ce que je peux dire, effacer, quand je vous ai avec d'autres en table ronde, vous attendez votre tour, vous êtes courtoise.
Je suis comme un peu un volcan tranquille.
OK, c'est beau ça.
C'est à cause de moi. Moi, je crois beaucoup. Ma personnalité est comme ça. Je suis une personne qui analyse beaucoup la situation et j'attends d'avoir toutes les bonnes infos pour réagir. Il y a des gens qui aiment se jeter tout de suite, comme on dit. Mm-hmm. Moi, j'aime bien analyser. Je suis quelqu'un qui analyse beaucoup.
Il y a des gens qui ont des opinions avant de réfléchir. Il y a des gens qui réfléchissent avant d'émettre leur opinion.
D'accord.
Est-ce que votre façon de gérer est la même?
Oui, en règle générale, oui.
Qu'est-ce qu'on dirait de vous au bureau?
Mon Dieu.
Si vous n'y étiez pas.
Faudrait demander à ma collègue la prochaine fois. C'est sûr, moi, je suis une personne qui... mon style de gestion, je suis quelqu'un qui est plus comme un coach. Je donne beaucoup de place à tous les membres de l'équipe, aux membres de l'association, le conseil d'administration, nos membres. Je crois beaucoup que tout le monde peut apporter quelque chose. J'aime aller chercher les forces de chacun parce que je crois que l'union fait la force. Comme j'ai un bon sens de l'observation, j'analyse, je vois qui peut, dans telle situation, peut peut-être mieux dire le message. Parce que pour moi, qu'est-ce qui est important, c'est la cause. C'est d'en faire parler le plus possible. Mais aussi, j'aime pas d'y aller d'une façon, aller à l'opposition.
Ouais.
Moi, je crois beaucoup à la sensibilisation, expliquer les choses, prendre le temps d'expliquer les choses afin qu'on comprenne vraiment la situation puis que le respect soit là.
Est-ce que vous avez des bureaux régionaux? Est-ce que, un peu comme le regroupement des aveugles et amblyopes du Québec, a des associations régionales membres? Est-ce que c'est comme ça pour la QPPT?
Non, nous, on n'est pas un regroupement. Nous, on est vraiment un organisme dit national, c'est-à-dire que... On s'occupe, notre territoire, c'est tout le Québec. Bien qu'on a nos bureaux, bien sûr, sont à Montréal depuis plusieurs années. C'est sûr que le plus gros bassin de personnes de petite taille, les familles, sont dans la grande région métropolitaine, Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud, mais on couvre vraiment tout le Québec, de l'Abitibi jusqu'à la Côte-Nord.
Le fait d'avoir un bureau loin de certaines régions, est-ce que ça fait en sorte que peut-être certaines personnes ne croient pas utile de devenir membre parce que justement on vous juge impuissant dans notre réalité abitibienne ou nordienne?
Pas nécessairement, non. Parce que c'est sûr que nous, on est là, on est un organisme d'information, de soutien et de défense des droits. Mm-hmm. Alors, quand n'importe quel individu, que ce soit un adulte de petite taille ou un parent nous appelle, qu'il soit en Abitibi ou à Montréal, on va lui offrir le même support, les mêmes conseils et tout. Ouais. C'est sûr que le seul élément qui est peut-être un peu dommage quand on demeure en région éloignée, c'est pour les activités sociales.
Mais c'est ça, je pensais au pique-nique, là, oui. Mi-août. Est-ce que parfois il est envisagé une année, un peu comme l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels? Parfois, on va le faire à Québec pour que, peut-être une année, les gens de l'Est du Québec puissent venir. Parfois, on va le faire en Outaouais pour encourager les gens de l'Abitibi. Donc, on se promène un peu. Est-ce que c'est...
Oui, bien, on commence de plus en plus à penser à cela. Et je vous dirais, depuis 2 ans, d'ailleurs, en fin de semaine, on s'en va, moi, ma collègue et moi, à Québec, ouvrir le mois du nanisme là, parmi nos membres, parce que l'an dernier, on avait fait ça et on avait eu un grand succès, justement pour donner une chance à les gens, les membres de l'Est du Québec, de pouvoir venir se déplacer. C'est sûr, on ne peut pas tout le temps le faire, mais on l'a dans nos préoccupations.
Ouais, ouais. C'est une des raisons, d'ailleurs, l'an passé, pourquoi vous m'aviez dit... Luc, j'aimerais ça venir au mois d'octobre.
Oui.
parce que c'est le mois du nanisme et j'ai envie que vous nous aidiez à comprendre pourquoi on appelle le mois d'octobre le mois du nanisme, mais on ne peut pas dire de vous que vous êtes naine.
Ah bien, c'est vrai que les gens, bon, on mélange ces deux mots-là, mais pourtant, pour moi, c'est ben, oui, nain, c'est l'adjectif du mot nanisme, mais le nanisme, en tant que tel, c'est la condition, c'est l'état. C'est l'état dans lequel la plupart des personnes de petite taille ont. Mm-hmm. Par contre, on n'est pas atteint de nanisme, mais on est atteint d'une maladie reliée au nanisme. Alors, nous, on veut se dissocier justement du mot nain, parce que pour nous, le mot nain est tellement connoté à tout ce qui est personnage, féerique, bon, Blanche-Neige. Ouais, Blanche-Neige. Mm-hmm. Pourtant, on ne veut pas le bannir dans le sens qu'on n'a rien contre l'existence de Blanche-Neige. On ne veut pas que ça devienne Blanche-Neige et les 7 personnes de petite taille. Justement, que Blanche-Neige garde les nains, nous, les individus, on est des individus de petite taille, on est des personnes même ayant une forme de nanisme. Mm-hmm. Alors que ce soit l'achondroplasie, le syndrome de Morquio, l'ostéogenèse imparfaite, il y en a des centaines.
Oui, c'est ça. Me disiez-vous, c'est quoi? C'est plus de 200?
Oui, au Québec, là, même dans le monde, on dirait peut-être entre 200 et 500. Il y en a de très, très rares. Justement, Mme Lynn qui travaille ici, sa petite-fille, ils sont peut-être une trentaine, le syndrome qu'elle a.
Eh là là!
Alors oui, on a même des membres chez nous qui n'ont même pas encore de diagnostic, tellement c'est rare. Parce que nous, on fait aussi partie des maladies rares. Vous savez, les maladies orphelines, parce ouais. que toutes les formes de nanisme, c'est des maladies rares.
Lorsqu'on est confronté justement à autant de sources ou provenances de la maladie, est-ce que ça veut dire qu'on est confronté également à plusieurs réalités et donc il faut se documenter parce qu'on ne sait jamais qui va nous appeler avec quelle réalité ou, somme toute, une fois que le diagnostic est tombé, on vit tous à peu près la même chose?
Ça peut changer, je vous dirais, d'une maladie à l'autre et même dans une même maladie osseuse, si on prend... Parce que, bon, la plupart des années, c'est des maladies osseuses, des fois organiques ou hormonales, excusez-moi. Mm-hmm. Mais dans une même maladie osseuse, il peut y avoir même des différences. Il y a des gens qui vont subir plusieurs interventions chirurgicales, d'autres pas. Les états peuvent changer d'une personne à l'autre même. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on veut parler du mois du nanisme, ouais. mettre la condition médicale de l'avant pour faire réaliser que c'est un handicap à prendre au sérieux. Hein? Souvent, on a l'image de personne petite taille, c'est cute, c'est sympathique. Mais dans la réalité, bien qu'on vit très bien, là, je ne vais pas dépeindre un portrait négatif, mais on a quand même des défis au niveau médicaux, dans le sens qu'on a des déformations osseuses, on peut avoir des problèmes, des douleurs. Souvent, la plupart d'entre nous vont vivre avec des douleurs. Ça peut aller jusqu'à des opérations, comme j'ai dit. Et aussi, vous l'avez mentionné.
Pour plusieurs, l'espérance de vie n'est pas celle de quelqu'un qui n'a pas cette réalité-là?
Bien, en majorité, on a la même, je vous dirais. Mais c'est sûr qu'il y a des cas plus rares ou plus fragiles que ça peut jouer.
Ou parce que le cœur est obligé de travailler tellement. Moi, je me souviens d'un ami quand j'étais plus jeune. Puis à 30 ans, il est décédé d'un infarctus. Parce que justement, il était obligé tellement de dépenser d'énergie. Là, peut-être qu'il y avait une autre condition dont
d'accord,
j'ignorais
oui.
Parce qu'à l'époque, bon, je pensais qu'il y avait juste une forme de nanisme, puis c'était la forme de Dominico.
D'accord.
Mais ben, tant mieux, vous me dites que ça, ça joue pas. J'ai une question à vous poser
oui.
et on va répondre plus longuement au cours du mois, mais vous devez avoir un évier plus bas. Vous devez avoir un évier moins profond.
Oui.
Parce que c'est une chose de l'avoir à sa portée, mais il faut être capable d'aller dans le fond. Vous devez avoir un comptoir autour de l'évier qui ne va pas trop loin pour pouvoir, avec votre bras, aller au bout du comptoir. Mais je pense, je ne me souviens plus exactement, c'est longtemps, je ne vous ai pas posé la question, mais il me semble, je ne sais pas si c'est votre mari ou vos enfants, mais vous n'êtes pas tous de petite taille dans la famille.
Exactement. Nous, quand on parle d'accessibilité, on n'est pas les seuls dans la famille.
Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a comme l'évier pour les grands, l'évier pour les moins grands?
Ben, il y a plusieurs options. Des fois, ça peut être seulement mettre l'évier sur le côté pour avoir accès à la robinetterie. Parce que, bon, des fois, on ne peut pas toujours adapter son loyer, son logement
ouais.
et son domicile. Des fois, oui, ça peut être deux, dépendant qui cuisine. Mais c'est sûr qu'on ne vit pas dans des petites maisons.
Non.
Il faut vivre parce que tout c'est ça, nos familles, nos amis, tout ça, c'est des personnes qui sont pas, qui n'ont pas le nanisme. Alors, il faut toujours penser un peu à tout le monde aussi.
Ça risque d'être le moment où je vais être le plus maladroit lorsqu'on regardera justement tout ce qu'il y a à faire dans une maison pour permettre de faire la vaisselle, la cuisine, puis que tout le monde puisse vivre une vie... la plus normale possible, puis que tout se passe bien. Mais on aura le temps d'y revenir. C'est chouette parce que, justement, vous, ça donne comme ça. Vous avez 5 vendredis avec
ouais.
nous, donc on va pouvoir en profiter. Et s'il y en a qui ont des questions à la maison ou des réalités que vous avez envie de partager, peut-être parce que vous vivez cette... ce qu'on dit condition ou...
Ah oui, c'est une condition.
Okay. Donc, gênez-vous pas. Je sais qu'on vient de changer le courriel. Je m'informerai, tiens. À M. Dupuis pendant qu'on aura le petit pont musical, puis je vous dis ça de l'autre côté. Et également, comme je le disais, si vous avez des questions, ben ne pas vous gêner. C'est pour ça que Karine est là. La QPPT côté finances, comment ça va?
Ça va quand même, mais bon, c'est ça.
Qui sont vos bailleurs de fonds?
Nous, on est subventionnés par le SAQUET, donc nous sommes un organisme de défense des droits.
Okay.
C'est notre bailleur de fonds principal.
On va voir avec d'autres que c'est pas aussi, disons, rose que ça. Entre autres, Jean-Rémy Provost, directeur de Revivre, qui, comme organisme, donne aussi des services. Et dans ce cas-là, il y a une grosse coupure de budget. Et on a été obligé même de mettre plusieurs services de côté. On y revient dans une ou deux minutes avec Jean-Rémy.